dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans cette première émission de décembre. Oui, on attaque doucement la fin de l'année. Alors, on va vous préparer une petite émission aux petits oignons le 31 décembre. Hein. Alors attention, il va falloir pousser les meubles, on commence à vous le dire, hein, comme ça vous pouvez vous organiser. Ah, ça va swinguer, hein. Ah bah oui, si. Bah le lutin. Voilà, on a décidé de faire une chanson chacun. Alors, si c'est moche, c'est sa faute, hein. On est bien d'accord sur la question. Ah oui, il me regarde de travers. Oh là là, il me regarde avec un œil noir en disant « Si tu commences comme ça le 1er décembre, tu es mal parti pour le 31. » Mais en attendant, vous aurez donc deux émissions, une émission de plus en ce mois de décembre, puisque vous en aurez une donc aujourd'hui. Vous en allez voir une le 15, rappelle-toi la date, le 15 décembre. Le 15 décembre, où on parlera du bilan de l'année. En gros, on parlera des meilleurs livres et des meilleures séries ciné. Et en citant les autres, donc en gros, ça vous fera 10 livres et 10 films, 10, 12 films ou séries. Comme ça, ça vous permettra le 15 décembre, s'il y a des livres qui vous intéressent ou peut-être des DVD à acheter pour quelqu'un qui serait intéressé, bah, hop, vous avez 10 jours à peu près à demander au Papa Noël pour récupérer les affaires, hein, parce qu'il faut écrire au Papa Noël, le Papa Noël récupère les trucs, enfin bon, bref, c'est toujours un peu problématique. Donc 10 jours avant, c'est parfait. Évidemment, vous aurez le bilan, on va dire, allez, le 22 décembre, il y aura une spéciale vraiment Noël. Donc, que de la musique de Noël. Attention, la dingo de Noël sera scintillante, je vous le dis tout de suite. Et donc, bah, vous finirez l'année avec nous. Oh, mais pauvre, là, vous n'êtes pas gâtés. Hein. Oh là là, 4 émissions avec Lisa, quelle horreur. Bon, bref. Allez, ce jour-ci, on va parler de livres que j'ai lus au mois de novembre. Alors, il y en a d'autres hein, que j'ai lus au mois de novembre, mais je vous en ai sorti 4 de ce que j'ai lu. Vraiment, c'est 4 très différents et 4 qui peuvent vraiment convenir à tout le monde. Voilà, oui, il y en a un, on n'en parlera pas avec le lutin parce que trop problématique à expliquer celui-là. Alors on va commencer tout de suite en musique. Attention, c'est le choix du lutin. Sûrement pas le mien. Avec DJ Snake, A Different Way. Oui, il y a un rapport avec le titre de la première chanson, du premier livre. Mais bon, écoutez. Ah, écoutez, moi je le tiens plus à la fin de l'année. Je ne le tiens plus.
See in silence, so breathe easy, my dear. You can find
C'était donc DJ Snake avec A Different Way. Alors, on va parler d'un premier livre qui s'appelle L'œuvre du serpent. Oui, DJ Snake, Snake, serpent. Oui, ah ben alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est le lutin. Hein, voilà, il se casse pas trop la tête. Alors, c'est un livre de Norman Django, on dit. Alors, il nous donne en fait en pâture un espèce de pari en mode catastrophe écologique. Il faut dire que creuser la terre sur 30 km, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Et tous les habitants sont en quasi-perdition dans cet endroit. Alors, tout a été redessiné, remanié, réétabli de façon à classer, reléguer et répartir la population, enfin les survivants, un peu comme ils peuvent. Donc, certains subsistent vraiment et d'autres végètent. Il n'y a pas à tortiller. Alors, il faut dire que dans ce roman, c'est un roman qui est quand même assez complexe, notamment au point de vue des diverses organisations qui composent les strates de cette nouvelle société. Alors, vous avez des pitons, oui, bah, les serpents, voilà. Vous avez des chasseurs, vous avez des cinq, vous avez des riquis qui sont les ultra-riches, enfin, ceux qui ont récupéré 3 sous, francs, 6 sous, comme ils ont pu. Alors, on sent bien que tout est assez tordu, instable, un peu comme les bâtiments qui sont carrément branlants pour certains et qui suffiraient juste d'un souffle pour exploser le tout. Surtout qu'il y a quand même des espèces de sectes qui rôdent pour récupérer les survivants et qu'il y a un tueur au milieu de tout ça, ce qui n'aide absolument pas du tout. Alors le plus important dans ce roman, vraiment, c'est de se lancer dans l'histoire. Voilà, parce qu'il faut se familiariser bien sûr avec ce monde, ses ramifications, et donc l'enquête qui va lier notamment Nathanael et Milo, et évidemment apprendre le vocable, les noms, les dénominations, et un peu la complexité de cette tour de Babel. C'est écrit dans un style très, très cinématographique, avec des facilités ça et là, mais honnêtement, on plonge dans cette espèce de dystopie slash post-apo fascinante, tant par son propos, qui est assez étonnant d'ailleurs, que par les méandres de cette histoire très très ondoyante, oui bah rapport au serpent dans le titre, oui c'est facile je sais, sans compter que ce serial killer est pas très très orthodoxe, hein, mais bon... Oui, oh bah, ça vous m'étonner. Ah bah pour un tueur, c'est évident. Alors moi, je dois avouer aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé me faire des nœuds au cerveau. parce qu'à un moment donné, alors le lutin était mort de rire, parce qu'à un moment donné, parce que nous, on lit nos livres alternativement. Voilà. Et donc moi, je l'avais lu en premier, il l'a lu après. Non, il l'a lu en premier, tu l'as lu en premier, pardon. Il l'a lu en premier, je l'ai lu après. Et donc, enfin, à un moment donné, je lui dis, ah, mais tain, c'est fou, parce qu'en fait, il y a quand même cette histoire de synchronicité et de physique quantique. Alors, vous affolez pas, hein, partez pas en courant, c'est pas un traité... Non, c'est très abordable, mais il y a des petits trucs, certaines fois, dans certains passages, et en plaisantant, je lui dis, il est où le petit Carlium illustré? Je pense, hein. Je dis, bah ouais, parce que là, il va falloir Carlium, hein, pour tout démélanger, voilà. Mais c'est un mélange des genres, dans tous les sens du terme, en fait, qui est vraiment une très belle surprise. Alors, sans être un coup de cœur, même si le lutin était à ça du coup de cœur, moi non, mais j'ai aimé le style fluide, les dialogues sont percutants, et vraiment, en plus, ça sonne plausible. Parce que quelquefois, dans les dialogues, vous dites, ah, on parle pas comme ça dans la vie courante, hein, on va se calmer. Et puis, il y a de l'humour, voilà, un peu partout, un peu à droite, à gauche. La fin est vraiment incroyable. Vraiment, si vous aimez les dystopies, les post-apos, les anticipations qui pourraient exister, même si c'est pas forcément ça, mais en tous les cas, ça peut rentrer avec un style, avec une histoire qui se tient, avec des personnages, avec un univers à part entière. Attention, je vous dis, c'est complexe au début, etc. Et puis, il faut quand même s'accrocher. C'est pas quelque chose qu'on lit en regardant la télévision ou en surveillant le pot-au-feu. Hein. Bah, c'est la saison. Voilà, ou ce que vous voulez. Voilà, donc l'œuvre du serpent de Norman Django, franchement, bah écoutez, allez-y, moi j'ai bien aimé. Après, ça fout un peu la trouille, hein, parce que vous dites, oh punaise, si ça nous arrive. Bon, après, creuser 30 km de profondeur dans la terre, faut dire que c'est pas très intelligent, voilà. Enfin, c'est l'être humain, ça, on peut rien y faire. Alors, écoutez, on va écouter de la musique. Oui. On va écouter. Alors, encore un choix du lutin. Hein. C'est sûr que je l'aurais pas mis celui-là. Johnny Hallyday, fils de personne, il m'a dit ça colle très bien avec le roman dont tu vas parler après. Il a pas tort. Pour une fois qu'il a pas tort. Alors après Johnny Hallyday, on va parler d'un livre, un roman régional. Alors le roman régional s'appelle Anatole, fils de personne. Oui, c'est sûr, vous allez me dire, ah ben il est bien ce lutin, oui, ben oui, voilà. Il suit beaucoup mieux que moi certaines choses. C'est un livre de Gérard Georges. Alors on est avec Anatole qui est un garçon, comme on a dit, mal entouré. Voilà, sa mère est particulièrement cinglante avec lui. Elle pense de toute façon que c'est de la mauvaise graine. Son père, qui est maréchal ferrant, n'est pas plus agréable que sa bonne femme. C'est un couple qui est bien plus âgé qu'on pourrait imaginer pour avoir un garçon de 12 ans. Alors Anatole, en fait, dans cette France des années 60, il s'évade. Il parcourt les chemins de campagne en solitaire. Il se crée des escapades aventureuses. Et visiblement, l'auteur connaît très très bien le coin parce que grâce à ses personnages, il peut rentrer des souvenirs, des gens, des sentiments qu'il a connus. On le sent, puis je suis allée voir une interview et ce qui son écriture, c'est vraiment ça. C'est ancré dans sa vie, ses souvenirs, les gens qu'il a côtoyés, des histoires qu'il a entendues. Et tout ça, on sent qu'il y a un ressenti qui enrobe, en fait, qui est enrobé par son pouvoir de fiction, de romancier. Alors, petit à petit, on va découvrir la vie, les sentiments, les rejets, les espoirs de ce petit Anatole, notamment quand il va rencontrer la fille du baron, qui, par son caractère, sa joie de vivre, etc., va lui adoucir un petit peu la vie. Alors, on se doute bien hein, que les classes sociales bien ancrées dans ces années-là, mais est-ce que c'est vraiment encore différent de nos jours dans certains coins? Pas vraiment. S'opposent à eux, à tout. Voilà, ils aiment ou ils détestent l'autre, le moins riche, le plus puissant, le vil, le bon, bref, il y a encore tous ces antagonismes. Et au milieu de tout ça, il y a Anatole. Voilà. Alors, c'est un roman qui ressemble comme à une peinture. En fait, Gérard George offre une très belle toile de fond, de couleurs, d'émotions, et s'attache à tous les personnages. Vraiment. Y compris ce que l'on déteste immédiatement ou ce que l'on va détester par la suite. Voilà, il offre un morceau de cette peinture, comme un tableau. Il offre un coin du tableau à tous les personnages. Alors, honnêtement, l'ancrage là de ce roman-là est dans l'Auvergne, et c'est vraiment primordial. Il décrit, les descriptions sont très imagées, les personnages sont bien trempés dans cette espèce de... dans un espèce de nuancier sans restriction. C'est vraiment pas... tout le monde n'est pas ni très bon ni très mauvais, etc. Bah, comme l'être humain, quoi. On a des bons et des mauvais côtés. Et puis, franchement, dans ce roman, il y a une âme. Voilà, il y a une âme qui transparaît dans chaque décision ou mouvement que les personnages font. Alors, moi, j'ai bien aimé parcourir les chemins aux côtés d'Anatole et de ceux qui l'entourent d'ailleurs. J'ai trouvé très touchant comme roman. En plus, il y a un questionnement sur la filiation. Au fil des pages, qui peut apporter qu'une touche de réflexion au lecteur. Voilà. Donc, moi, j'aime bien... voilà, cette année, j'ai bien... Enfin, ça fait donc le 11e mois que je lis au moins un roman régional par mois. Et honnêtement, j'ai aimé ça sur les romans régionaux. Quelquefois qu'on ne trouve pas ailleurs ce mélange des genres entre les histoires personnelles, les histoires ancrées dans le terroir, des histoires simples, en fait, sans vraiment faire de fioritures, mais avec un propos derrière. Voilà, donc Anatole, fils de personne. Écoutez, moi j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré de l'année, hein, ça c'est sûr, mais je pense que je relirai un Gérard Georges pour voir un peu ce qu'il en est de ce monsieur. Alors, on va faire une petite pause musicale. Alors là, franchement, on va dire que ça m'est venu tout de suite à l'esprit comme chanson. Voilà. Lutin était mort de rire parce que, honnêtement, sois honnête, tu l'avais pas entendu depuis quoi? Ah bah oui, au moins 20 ans. Moi oui, si je l'avais entendu il n'y a pas longtemps. Et ça m'a fait bien plaisir. Et quand je me suis dit, on va le mettre, ça va être bien, parce qu'il y en a plein qui vont aimer. Gérard Lenormand, si j'étais président. Oui, il y avait Mickey, Minnie et toute la clique. Parce qu'on va parler, d'un lieu. Voilà. Enfin, en tous les cas, ça se passe dans un lieu où il y a le président. Ah bah ça, vous voyez tout de suite. Ah bah si. Ah bah, il n'y en a pas 10 000 où le président est, hein, voilà, donc, spéciale dédicace au président de la République, hein, si j'étais président, Gérard Lenormand, écoutez, point où on en est.
Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi, une phrase magique, je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste, je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais. serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La 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 la.
Écoutez, là, ça va pas être possible. Je suis censée faire une chronique sur l'Élysée. Et l'autre, il me semble, mais la chanson, ça plaît à la culture. Évidemment, le lutin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah tiens, ça te va bien, toi, l'artiste, ça plaît à la vie. Merci. Ah, oh, écoutez, je vous jure. Non, mais il faut arrêter avec le lutin. Il faut que je lui coupe l'accès à la musique. Oh, je savais que ça allait être une horreur quand j'ai choisi cette chanson. Je me suis dit, c'est pas possible, il va faire des réflexions tout le long. C'est ce qu'il a fait, Maya. Il m'a dit que c'était un bon gouvernement, mais bon, ça me plaît à la culture. Il m'a dit, ça vous va bien aux artistes, super. Moi, j'aime bien, ça me plaît. Très gentil, ce garçon. C'est le seul qui est normal, déjà. Ah, oh, ça suffit. Bon, écoutez, je vais essayer de me remettre, là, parce que j'ai quand même... On va être obligé de présenter nos excuses à la présidence. Arrête-toi, écoute, franchement. Bon, écoutez. Allez, remets-toi. Alors, je m'évente, hein, si vous entendez du bruit. J'ai pris mon éventail pour me faire de l'air pour... Voilà. Alors, on va parler de... Oh, putain, c'est pas possible de faire ce genre de choses. Hein. Je te rappelle, c'est une émission de radio. Vous voyez dans quel état on va être le 31 décembre ? Ça va être compliqué, surtout quand j'ai vu ses choix musicaux. Je sais pas comment je vais faire pour présenter ça. Bref, alors, nous allons... Je le regarde plus. Attendez, bougez pas, je change de place et je me mets de l'autre côté. Je me tourne. Donc, je vais vous parler d'un... Je vais pas y arriver. Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle La taupe de l'Élysée. En plus... La taupe... Je vais pas y arriver. Je jure, excusez, écoutez, ça vous fera rire 5 minutes. Alors, La taupe de l'Élysée, écoutez, de Frédéric Potier. Alors, je suis vraiment désolée, en plus, Frédéric Potier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je suis désolée, Frédéric. Alors, ça s'appelle La taupe de l'Élysée, de Frédéric Potier, je vais essayer de me mettre dans ma tête. On est en juillet 1954, je vais essayer, parce que là, c'est compliqué, je vois Simplet courir partout, c'est horrible. Donc, nous sommes dans la France de juillet 1954, qui est dirigée donc par Pierre Mendès France et son gouvernement. Alors, Mendès France, donc PMF, comme beaucoup l'appellent, est un homme intègre, c'est un compagnon de la Libération. Et c'est un homme qui n'est pas le style à se dédire ni à avoir peur. Je me suis tournée, hein, comme ça je ne reviens pas. Et un jour, un de ses ministres vient lui indiquer qu'il a des informations sensibles filtreraient d'un conseil de surveillance du territoire et du conseil des ministres. Donc, PMF, en fait, il va mandater son directeur de la surveillance du territoire, qui s'appelle Roger Vibault, et en fait, il va lui demander, en gros, de débusquer cette taupe sous les arcades du pouvoir. Alors, Vibault, qui est un genre de limier hors pair, on va dire, va commencer à s'attraquer, il va commencer à soupçonner à peu près tout le monde, et il va éclaircir le champ. Et à un moment donné, il commence à soupçonner l'entourage du ministre de l'Intérieur, qui n'est autre qu'un certain François Mitterrand. Et donc, à partir de ce contexte, qui est vrai, hein, Frédéric Potier, en fait, nous plonge dans un thriller politique et en plein milieu de l'année 1954, où, en fait, la France est un peu embourbée dans certains endroits, notamment, c'est pendant les négociations de paix à Genève qui sont censées, enfin, qui vont commencer à essayer d'éviter une défaite assez cinglante de la France en Indochine. Et nous sommes bien sûr dans la 4ème République, où, période où le président n'a quasiment pas de pouvoir réel, contrairement à son président du Conseil, qui lui dirige carrément les manœuvres. Alors, on est entre le Parti communiste qui est omniprésent à l'époque, hein, qui a une force pouvoir important, le Parti socialiste, ex-SFIO, les secrets défense, l'embourbement, on va dire, parce que c'est français maintenant, tu vois, tu me fais dire n'importe quoi. L'embourbement, enfin, en tous les cas, le marasme qui se trouve en Indochine, les ambitions personnelles des ministres, et bien sûr des autres dirigeants politiques, sans compter, bien sûr, sur le contexte général géopolitique sulfureux, puisqu'on est en pleine guerre froide, et alors, une taupe sous les ors de la République, c'est absolument pas une bonne idée, hein, on est bien d'accord sur la question. Et Frédéric Potier, qui quand même connaît extrêmement bien les couloirs feutrés du pouvoir, hein, parce que le monsieur est énarque et a été préfet, hein, excusez du peu quand même, donc il connaît ce genre de rouage, et il connaît son petit politique illustré, hein, bien sûr, évidemment, nous offre un récit de la France d'alors, en plein espionnage et lutte de pouvoir, dans cette espèce d'après-guerre où les anciens résistants n'ont pas tout bord confondu, on va dire, n'ont absolument pas fini de régler leurs comptes. Voilà, ou les comptes. Alors moi, j'ai lu les trois livres précédents de l'auteur. Vraiment, j'apprécie beaucoup son écriture. J'ai apprécié, bien sûr, cette histoire, où le trait n'est pas forcément là où on l'attend. J'ai beaucoup aimé la reconstitution historique, qui est vraiment un plus dans ce roman-là, surtout quand on en vient au milieu des années 50, qui sont pas forcément les années les plus connues, les plus étudiées quand on est à l'école. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est assez captivant sous la plume de Potier. Alors, je lui reproche juste un petit truc, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas trop de lyrisme, contrairement à ses autres ouvrages. Il manque un brin de lyrisme, de folie, en fait, peut-être une figure charismatique. Voilà, pour en faire ce qu'on appelle un page-turner, j'aime pas cette expression, mais un livre où vraiment on ne peut pas s'arrêter de lire, etc. Après tout, c'est bien, c'est franco-français, hein, donc c'est déjà beaucoup... c'est déjà un beau sac de vipères, hein, déjà dans ce livre-là. Donc écoutez, contentons-nous du franco-français. Donc voilà, un autre livre à mettre sous le sapidou, à demander au Papa Noël. Ça s'appelle La taupe de l'Élysée de Frédéric Potier. Si vous voulez lire les autres Potier, vous pouvez. Moi, j'ai bien à chaque fois, hein. Vraiment, c'est, si vous aimez les thrillers politiques français, voilà, sans ex-brouffe, sans rien, et puis en plus il connaît son sujet, le garçon, voilà, donc on va écouter une nouvelle chanson, on va essayer de... Je regarde toujours pas le lutin, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai le dos tourné, je l'entends glousser l'autre débile dans mon oreille, donc super. Depuis tout à l'heure il arrête pas, donc c'est insupportable. Je sais pas comment je vais finir l'émission. Arrête. On va partir avec Bernard Lavilliers. Je vais me casser avec Bernard Lavilliers, avec Seigneur de guerre. Oui, c'est un rapport avec le prochain. Mais écoutez, ça sera pas pire que... Oh non, mais arrête. Oh là là, c'est terrible. Il me chante la chanson de Lenormand dans l'oreille. Je vais pas y arriver. Hein. Désolée, hein, mais on va écouter Bernard Lavilliers tout de suite.
Comme les vierges de Babylone, tu cherchais dans la fumée, dans les cartes des médiums, dans la force des marées. Tu marchais dans la tempête, tu buvais des alcools forts, tu croyais le reconnaître, mais tu le rêvais encore. Grâce fauve, il est tranquille et brutal. Silencieux quand il se pose entre Dieu et l'animal. Sous la peau brillant dans l'ombre de longs muscles de métal. Homme seul, homme sombre, où est le bien et le mal? Noir comme le diable, chaud comme l'enfer, insaisissable, seigneur de guerre, rythme fort, juste avant le jour. Pour les morts qui ont le cœur lourd, les tambours battent aussi pour ton amour. Soleil pourpre et chevaux noirs, odeur de cuivre et de peau. Longue lame qui sépare d'un seul coup le ciel et l'eau. Il viendra devant ta porte sans descendre de cheval. Et il faudra que tu portes deux bracelets de métal. Noir comme le diable, chaud comme l'enfer, insaisissable, seigneur de guerre. Ce jour-là, si tu l'aimes encore, ce sera plus fort que la mort. Les tambours battent aussi pour ton amour.
Voilà, ça c'était Bernard Lavilliers, seigneur de guerre. Alors, on va parler d'un livre vraiment qui a été une très grosse surprise ce mois-ci. On s'est calmé, hein, il m'a fait une tisane. Quoi que ça n'a pas servi à grand-chose. Non, mais ça va être comme ça jusqu'à la fin, hein, on vous le dit tout de suite. Ça s'appelle Le passage d'Andrei Sastuk. Donc ça s'écrit S-T-A-S-U-K. C'est un livre que j'avais repéré dans la rentrée littéraire de janvier 2025, que je n'avais pas récupéré ni acheté. Et il s'est trouvé que je l'ai trouvé sur une brocante, là, à 3 francs 6 sous, en gros, dans tout neuf. Mais alors, je pense que la personne, on lui a offert, elle ne l'a jamais touché de sa vie. Hein. vraiment neuf. Alors, nous sommes au... Vraiment, c'est un très bon roman. Si vraiment vous avez l'occasion, allez-y. Nous sommes donc au bord d'une rivière polonaise. On est en juin 1941, donc à la veille de l'opération Barbarossa. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de code de l'invasion de la Russie par l'Allemagne nazie. En gros, ils ont jeté le traité à la flotte et ils s'attaquent donc plus à l'est. Donc c'est l'opération Barbarossa. On est dans une région proche de Lublin qui... à cette époque, ne parle à personne, sauf que dans quelques temps, les noms comme Chelmo ou Sobibor vont résonner grandement dans nos oreilles. Alors, de chaque côté des berges, se trouve une armée, en fait, puisque jusqu'à présent, ils sont alliés. Voilà, alors ils se sont partagés la Pologne, en gros, bah oui, un peu ça. Alors, d'un côté, vous avez les troupes nazies, hein, et de l'autre côté, vous avez les soldats russes qui sont en mode tout va bien. Voilà, puisque d'un côté, vous avez les Allemands qui, eux, sont prêts à envahir l'URSS et donc font des manœuvres, ont amené les gros des troupes. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui ne se doutent de rien, en fait, parce qu'il y a ce fameux pacte germano-soviétique de non-agression qui est en cours et qui n'a pas de raison particulièrement de se faire déchirer. Sauf que, bah, évidemment, quand vous avez deux dictateurs ensemble et qu'ils ont un ego surdimensionné pour être les rois du monde, c'est un peu compliqué. Et donc, le narrateur de ce roman, assez complexe et dense, il faut quand même le souligner, va raconter cette étrange période entre doute et imagination. Alors, il faut dire aussi qu'il y a des passages, des morceaux, qui se passe de nos jours, mais je peux rien divulguer parce que sinon vraiment ça serait dommage. Vraiment, il faut pas. Il y a des romans où vous pouvez pas en dire plus dans le fond et dans la forme d'un roman, sinon vous exposez les futurs lecteurs à tout savoir avant. Alors, on rencontre en fait plusieurs personnages de ce village. On a un passeur qui est prêt à aider moyennant finances, bien sûr. Un couple de juifs qui rêvent en fait de fuir vers l'URSS, puisque à l'époque il y avait une espèce d'utopie stalinienne qui avait élaboré l'idée de rassembler les juifs soviétiques dans la Sibérie, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Vraiment, il faut vouloir y aller en Sibérie, hein, on est bien d'accord sur la question. Après, vous avez des partisans polonais qui essayent de s'organiser un peu comme ils peuvent. Vous avez des résistants, mais qui s'organisent vraiment comme ils peuvent, vraiment pas beaucoup. Vous avez donc les soldats allemands, vous avez les Russes, vous avez les villageois qui essayent de vivre quasiment normalement. Et tout ce petit monde-là, quand même, est conscient qu'il se trame un truc. Voilà, parce qu'il y a une tension qui est de plus en plus dense. Il y a des manœuvres qui sont discrètes, mais qui n'augurent rien de bon quand on voit manœuvrer des tanks. Hein, on est bien d'accord sur la question. Mais dans ce village, on s'occupe. Voilà, on boit, on rit, on s'aime, on s'engueule, on tue le cochon. Voilà, la vie, quoi. La vie en campagne en 1941. Et on va assister véritablement, dans ce roman-là, à un fondement de ce qu'est le melting pot européen surtout ces lieux-là. Voilà. Alors, c'est vraiment très fascinant aussi. Alors, si on s'intéresse à cette période et à ces lieux, on sait déjà tout ça. Mais sous la plume de Stasiuk, franchement, c'est vraiment très, très bien fait puisque, en fait, c'est une terre, ce coin-là, qui est une terre qui est disputée depuis la nuit des temps par à peu près trois peuples. Les Polonais, les Russes et les Ukrainiens, comme ça s'est fait. Vous avez une terre qui est une terre de religion, puisqu'on y croise aussi bien des orthodoxes, des catholiques et des juifs. Et c'est une terre de combat qui est ancrée, sa terre baigne dans le sang depuis des décennies et des décennies. Alors je vous invite, si vous ne connaissez pas trop, à aller lire Cavalerie rouge de Isaac Babel, qui est quand même un des meilleurs écrivains sur ce sujet-là. Et dans tout ce melting pot de ce que je viens de vous dire, en fait, l'auteur montre, à travers cette espèce de entre ombre et lumière, on va dire. La violence qui va s'abattre sur ce coin-là, vraiment la violence de l'attaque, et il nous fait sentir les odeurs, il nous fait suffoquer parfois, on a même peur pour le couple, pour le passeur, pour les gens. En fait, en gros, on est un peu aux côtés des personnages sur la berge, le cœur battant, les tempes qui battent trop fort, en se demandant comment on va s'en sortir là. Et le plus de ce roman, c'est qu'il nous laisse faire notre propre conclusion. C'est-à-dire que les partisans sont désorganisés, les soviétiques sont surpris, les juifs sont face à la boucherie et à la haine des deux côtés. Seuls les Allemands, au début, semblent assez apaisés, fort de leur opération Barbarossa et du fait qu'ils ont enfoncé les lignes depuis 1939, partout. J'ai vraiment profondément aimé ce roman, dense, intelligent, un peu fouillis par moments, justement, parce que je ne peux pas vous divulgâcher, qui peut sembler d'ailleurs pas du tout très orthodoxe, on va dire, mais la fièvre monte, on le sent dans les descriptions, malgré le fait qu'il y a des morceaux d'écriture où ça rend vraiment la beauté des lieux, un peu comme si c'était un songe irréel, alors qu'on sait que ça va être l'horreur juste après derrière. Et alors, moi j'ai aimé ça parce qu'à aucun moment, donc Andrei Stadtsuk fait sortir un des personnages grandis de ce roman. Il ne cherche pas à amender qui que ce soit. Il édulcore pas l'histoire de la Pologne. Il écrit son histoire, sa fiction, mais il pointe aussi bien le côté obscur que la lumière, les héros comme les héros. Ça, c'est fait. Et honnêtement, dans la tourmente, on fait ce qu'on peut. C'est à peu près ce qui ressort de ce roman, et c'est la vérité. Dans la tourmente, dans une guerre, dans un problème de conflit, dans une période très compliquée, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Voilà. Et là, de chaque côté du bord, de la rivière, il y a matière à survivre, il y a matière à crever aussi. Voilà. Donc vraiment, c'est un très 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 bon roman. Vraiment, je comprends pas, je l'ai pas vu souvent. Alors peut-être parce qu'il y a ce côté un peu qu'il est vraiment dense, il est vraiment complexe. Il y a des allers-retours, donc peut-être que c'est ça qui a peut-être rebuté certaines personnes, mais moi, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le passage donc, de Andrei Stadtsuk. Donc n'hésitez pas, si quelqu'un dans votre entourage aime ce genre de choses, demandez au Papa Noël. Voilà. Alors, on va juste parler de ce que je vais lire au mois de décembre. Alors, sachant, attention, qu'au mois de décembre, j'ai deux relectures. J'ai décidé de relire La Petite Fadette de George Sand, puisque toute l'année j'ai relu un livre, un roman de George Sand, puisque j'avais reçu l'entièreté de la Pléiade, enfin des sorties Pléiade pour Noël et mon anniversaire de George Sand. Donc je me suis dit, allez, vas-y, relis un roman par an, par mois. Et on m'a offert aussi cet été les ondes dangereuses de Coderlo, enfin Chauderlo de la Clos, si vous voulez, ou Coderlo. Il y en a qui disent Coderlo, il y en a qui disent Chauderlo. Enfin, moi, mes profs de français alternaient les deux, donc voilà. Toujours dans la Pléiade. C'est un des deux romans français que j'aime le plus, sachant que Le Grand Mole n'est hors compétition. Hein. On est bien d'accord sur la question que Le Grand Mole est le roman de ma vie. Hein. Non, ça c'est fait. Voilà. Le deuxième, c'est La Princesse de Clèves. Voilà. Donc vraiment, ayant reçu les liaisons dangereuses, je me suis dit, il faut que je le relise. Voilà. Sachant que je vais lire trois autres livres, parce que généralement, à la fin décembre, je suis occupée à faire les imbécilités de Noël. Voilà, donc je ne peux pas tout faire. Donc je vais lire L'école du lac de Florence Roche, qui se passe entre les deux guerres, qui est dans un village de Haute-Loire, entre un maître d'école et une créatrice de mode qui va arriver, qui a une santé mentale défaillante et qui a un petit garçon, je crois, qui gère un peu sa maman comme il peut. Donc voilà, le deuxième roman régional, donc oui, cette année j'en ai lu beaucoup, ça va être La fille de la ramière de Daniel Kroos. Vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des émissions ici, j'adore l'auteur aveyronnais Daniel Krause. Là, on est en 1968 avec une jeune femme qui est une étudiante, en fait, et qui, après la mort accidentelle de son papa, va arrêter ses études et va revenir à la ferme familiale pour, dans le confin entre la Tarn-et-Garonne et l'Aveyron, pour reprendre en fait la ferme, sachant que elle milite pour les droits les causes des femmes et de les femmes, sûrement surtout pour la cause des femmes de la terre. Donc je crois que ça s'appelait CNJA, donc cause nationale en centre, voilà, des jeunes agricultrices, enfin, il y avait un truc comme ça. Enfin bon, c'était pour la cause des femmes de la terre. Et elle veut améliorer les conditions, etc. Elle a des exigences de femmes. Mais est-ce que c'est compatible avec cette période et puis le travail difficile des agriculteurs? Et je finirai, je pense, par un petit roman qui fait 144 pages. Du coup, c'est facile à lire. En une demi-journée, c'est plié. Quelques heures, deux heures, c'est plié. De Cendres et de Flammes de Kate Moss, non pas Kate Moss le mannequin, Kate Moss l'auteur britannique, qui d'ailleurs vit une partie de l'année à Carcassonne, ça s'écrit M-O-2-S-E si vous êtes, voilà. J'en ai parlé pour la saga de Minou Jobert, donc La Cité de Feu, La Cité de Flammes, La Cité des Mers, etc. Donc là on est en 1706, on est dans une ville côtière du nord-ouest de Tenerife, et en fait il y a un homme qui va être retrouvé mort au pied de la montagne noire, et donc voilà, sa fille va, pour des raisons X ou Y, ne pas croire ce qui s'est passé, et donc voilà, il y a une légende locale qui dit que le diable vit dans la montagne noire, et que quand il est en colère, le volcan se réveille, voilà. Écoutez, moi je pense que ça va être pas mal, deux relectures et trois inédits, voilà, c'est ce que je vais faire au mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Oui, on a été très dissipés. Hein, voilà. On note Lutin de ne pas repasser si j'étais présidente de Gérard Lenormand. Quand on fait des trucs, quand on veut essayer d'être compréhensible par la moitié des auditeurs, c'est terrible. On va se quitter avec une musique évidemment de Noël. Oui, écoutez. C'est la période, hein. Une de nos préférées, enfin une de mes préférées, sachant que l'artiste manque beaucoup, hein. Oh là là, s'il était là, mon Dieu, on aurait d'autres musiques que les horaires actuels. On va vous souhaiter une bonne semaine sur Liberté FM, première semaine de décembre. Vous vous occupez de vous, de vos proches et de ce que vous aimez. Nous, on vous occupe de vos petites oreilles. N'hésitez pas à aller écouter les podcasts ou les rediffusions de toutes les émissions de mes petits camarades sur Liberté FM. Vous savez, libertéfm.fr, podcast. Hop, on écoute. Comme ça, on peut l'écouter sous la douche, dans la voiture, sur le tracteur, pendant qu'on est en train de faire la cuisine, etc. Là, c'est bientôt la bouffe, donc vous pouvez y aller. Et d'ici là, portez-vous bien. On se donne donc rendez-vous dans 15 jours pour le spécial bilan de l'année, livres et donc séries et films. Écoutez, ça va être sympa, je pense. Le Lutin a déjà prévu quelques chansons. Voilà. C'est pas les meilleurs choix, hein, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà. On se quitte avec le sublime. Si, sublime. T'es jaloux, c'est pas mon problème. Sublime. Feu George Michael. Ah, quand même, c'était un sacré garçon. Et avec une très belle chanson de Noël. Last Christmas. Ah, évidemment. je vous évite Mariah Carey, vous êtes déjà gentil. Tiens, Mariah Carey. Note pour le 15. Mariah Carey. Ah, si, il faut le passer. C'est immuable. Allez, ciao. Bonne semaine et bonne journée sur Liberté FM. George Michael, Last Christmas. Last Christmas.